Mais sentez juste que ça va jouer un rôle décisif. Rôle décisif dans quoi? Si vous n'êtes pas trop fatigué, je voudrais continuer cette histoire d'évolution. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe chez Foucault? Qu'est-ce qui se passe chez Foucault à ce moment-là? Pourquoi est-ce qu'il pense, à mon avis, complètement à tort, mais il l'a vécu comme ça? Qu'est-ce qui fait qu'il se pense en état, dans une espèce d'état de crise? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé après la volonté de sa femme? Je pose la question parce que c'est une question qui nous importe, l'évolution. Elle fait pleinement partie de l'évolution de la pensée d'un philosophe comme Foucault. Et je veux marquer, là, même vraiment du dehors, je ne me permettrai pas de supposer ce qui s'est passé dans la tête de Foucault. Mais je constate des choses du dehors. L'archéologie du savoir est de 1969. Qu'est-ce que je peux dire de l'archéologie du savoir? C'est un grand livre qui se présente comme livre de la méthode et qui conclut toute une série de livres qui portaient sur le savoir, premier axe de la pensée de Foucault. Tous les livres précédents portaient sur le savoir, ce qui ne veut pas dire sur la science, puisque Raymond Roussel a un savoir qui ne fait qu'un avec sa propre poésie. Vous vous rappelez, je ne reviens pas là-dessus, le savoir, ce n'est pas du tout la même chose que la science, en revanche, la poésie est savoir. La science est savoir, et bien d'autres choses sont savoir. Mais tous ces livres sur le savoir culminent avec l'archéologie du savoir, 1969. Bien sûr, quelque chose était déjà en train, quelque chose d'autre. À savoir, il y a bien longtemps que Foucault savait que l'axe du savoir n'était pas suffisant. En effet, l'archéologie du savoir se conclut et tire toutes les conséquences au niveau d'une grande théorie des énoncés dont nous avons vu le détail au premier trimestre, mais se tait sur comment choisit-on les énoncés d'un corpus, sans doute parce que la sélection des énoncés d'un corpus renvoie à un autre axe que celui du savoir. Donc, il y a déjà un autre axe qui travaillait, l'axe du savoir. Mais Foucault n'était pas encore en mesure d'étudier pour lui-même ce deuxième axe, bien que ce deuxième axe ait déjà été actif dans et sous le premier. Or, il lui faudra une longue réflexion, et pas seulement une réflexion, mais une pratique. En effet, si l'archéologie du savoir est de 69, le livre suivant est de 75. 6 ans. 6 ans sans livre. Qu'est-ce que ça veut dire? Et qu'est-ce qu'il fait pendant 6 ans? Il fait de la pratique de lutte, c'est-à-dire, il instaure, j'en ai souvent dit quelques mots, il instaure le groupe information prison. Il participe à toutes les luttes autour du mouvement des prisons et dans cette époque qui fut riche en luttes. Donc, il n'a pas, je ne crois pas que Foucault ait une pratique, comme on dit, politique, avant 68. Le grand moment de sa pratique politique est après 68. À la fois dans ce groupe Information Prison, qui à mon avis a été une des réussites du gauchisme après 68, c'est-à-dire un des rares groupes qui n'a pas réengendré une forme stalinienne. Et puis, il se livre parallèlement à une réflexion théorique. Est-ce que c'est par hasard que sa pratique était centrée sur les prisons et le problème des prisons? Évidemment non. En 75, éclate surveiller et punir. Sépare le problème des prisons et le problème du châtiment qui l'accède au deuxième axe, l'axe du pouvoir. Surveiller et punir est le premier livre sur cet axe du pouvoir. Là, le pouvoir et les rapports de pouvoir sont considérés pour eux-mêmes. À ce moment-là, éclate en quel sens les formations de savoir impliquaient, exigeaient ce deuxième axe du pouvoir. Il aura fallu 6 ans à Foucault pour mettre au point ce changement d'axe. Et puis, presque aussitôt, s'enchaîne la volonté de savoir, qui en fait est le second livre sur le pouvoir. Vous me direz pourquoi s'appelle-t-il savoir? Il n'y a aucun problème à cet égard. Car s'il s'appelle savoir, c'est avec volonté de savoir, et volonté de savoir désigne très précisément le mixte concret pouvoir-savoir. Je viens d'essayer de montrer en quoi la volonté de savoir apportait des choses nouvelles. 2 thèmes fondamentaux nouveaux. Le rapport, premier thème, le rapport du pouvoir et de la vie. 2e thème, la spécificité des points de résistance. C'est donc 2 livres très rapprochés. Qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce que c'est que la crise, l'espèce de crise que Foucault a traversée à l'issue de la volonté de savoir? Je crois qu'il n'y a pas de doute, parce qu'il l'a dit, il a eu l'impression d'un malentendu sur ce livre. Il a eu l'impression d'un malentendu, et bizarrement, ce malentendu lui a été pénible. Il l'a pris d'une manière... C'est très curieux, parce qu'il y a eu beaucoup de malentendus concernant l'histoire de la folie. Il les a très bien pris, à ma connaissance, je ne sais pas. Là, il se trouve que le malentendu, là, il a dû être plus grave, ce malentendu. Et il n'y a pas eu que ça, qu'est-ce qu'il y a eu? Moi, je crois que si Foucault a eu l'impression, à tort ou à raison, d'un malentendu, c'est parce que il y avait aussi une espèce de crise à survie. Et je crois que cette crise s'est manifestée de la manière la plus noble sous laquelle une crise peut se manifester. À savoir une espèce de retraite. Laissez-moi. Il faut que j'y voie clair. Et que là, Foucault s'est mis comme en retrait. Et sans doute, à ce moment-là, il a été plus seul qu'il n'a jamais été seul. Donc ça fait vraiment partie de la philosophie. Mais alors, qu'est-ce que c'était? Je crois que la crise, si j'essaie d'expliquer sans prétendre détenir le moindre secret, c'est une hypothèse que je fais, moi, et une hypothèse complètement du dehors. Je pense qu'en effet, il y a eu crise, et qu'il a pensé avant tout qu'il n'y avait pas seulement malentendu au niveau de la volonté de savoir, malentendu entre lui et les lecteurs, mais que c'était quelque chose de beaucoup plus grave, à savoir qu'il était dans une impasse. Et que cette impasse, c'était quoi? Qu'il avait formé son système savoir-pouvoir, avec toute la variété des paysages, toute l'énorme diversité. Foucault n'avait pas de ces auteurs qui répètent la même chose tout le temps, c'était chaque fois d'une diversité, chaque fois il redonnait tout. Une impasse qui était quoi? Bon Dieu, j'ai pas les moyens de sortir du point de vue du pouvoir. Est-ce que je serai un homme de pouvoir? Finalement, j'ai beau faire. Est-ce que je ne suis pas encore du côté du pouvoir? Et si vous voulez, pour essayer de me faire comprendre, c'est Foucault est un homme qui, par exemple, dans les manifestations de l'époque, avait une espèce de violence contenue, c'est-à-dire comme si il tremblait sur lui-même, mais pas de peur, mais il tremblait sur lui-même de violence. Et la question, est-ce que philosophiquement, je ne reste pas du côté du pouvoir? Est-ce que j'ai des moyens philosophiquement de penser en fonction d'une catégorie qui ne serait plus ni celle du pouvoir, ni celle du savoir, parce que le savoir, dans sa philosophie, trouvait sa raison, précisément, dans les rapports de force constitutifs du pouvoir. En d'autres termes, est-ce que je peux franchir la ligne? Et finalement, quel est l'auteur? Quel est l'auteur, soit en littérature, soit en philosophie, qu'ils vivent d'une certaine manière avec cette question. Est-ce que je fais le malin ou est-ce que je suis capable de franchir la ligne? Avec, bien entendu, quelle ligne comme question? Et sans doute ça varie, chacun n'a pas pour ligne la même ligne. Mais vous savez, en littérature ou dans la pensée, là, il n'y a aucune différence entre la littérature et la philosophie. Il s'agit toujours de franchir la ligne. Et quand les lecteurs, quand il arrive que les lecteurs applaudissent et disent « ça c'est bien, le type c'est bien », tant mieux si les gens trouvent ça bien, mais il est tellement loin de ce qu'il voulait. Et moi je pense que Foucault se disait vraiment, la ligne du pouvoir, est-ce que je vais pouvoir la franchir ou est-ce que je vais m'arrêter du côté du pouvoir? D'où l'importance de ce truc sûr, les points de résistance. Et quand je vous dis un destin, et c'est vraiment un destin devait l'entraîner à poser de plus en plus les points de résistance comme premier. Parce que dire les points de résistance sont premiers, c'est déjà avoir franchi la ligne. Mais on ne peut pas franchir la ligne en disant simplement quelque chose qui arrange. Il faut que ce soit nécessaire. Il faut que ce soit absolument nécessaire, qu'on ne puisse pas faire autrement. D'où, je l'ai déjà lu, mais je crois l'heure est venue de relire ce texte fondamental, puisque il me persuade que je ne suis pas en train de me livrer à une interprétation grotesque, mais que c'est bien ça. C'est bien ça qui explique le silence de Foucault pendant tant d'années après la volonté de savoir. C'est lorsque Foucault le dit. On me dira, vous voilà bien avec toujours la même incapacité à franchir la ligne, c'est-à-dire à dépasser la catégorie du pouvoir. Vous voilà bien avec toujours la même incapacité à franchir la ligne. Ce texte est de 1977, donc après la volonté de savoir, qui est de 76. Vous voilà bien avec toujours la même incapacité à franchir la ligne, à passer de l'autre côté, à écouter et à faire entendre le langage qui vient d'ailleurs. Toujours le même choix du côté du pouvoir de ce qu'il dit ou fait dire. Ça, c'est une espèce d'objection Foucault, absurde qu'il avançait, a dû se faire et qui a dû retentir en lui au point qu'il a dit non, foutez-moi la paix, il faut que je... il faut que je trouve, il faut que je me reprenne. Comment franchir la ligne ? Vous comprenez ? Et à mon avis, c'est la seule explication au fait que Volonté de savoir 1976 et le livre suivant où il a trouvé paraîtra, sera prêt quand même bien avant, sera prêt bien avant, mais paraîtra en 1984, c'est-à-dire 8 ans après. 8 ans après. Là, il a trouvé. À quel prix il a trouvé bon, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Il a trouvé. Il a trouvé comment franchir la ligne. Je dis d'une certaine manière, on peut marquer dans la volonté de savoir ce moment précis où il ne l'a pas encore franchi. C'est la découverte des points de résistance. Car en effet, qu'est-ce qu'on peut dire? Foucault s'objecte à lui-même, et c'est bien plus qu'une objection, c'est vraiment quelque chose, c'est une affaire vitale. Il s'objecte à lui-même, il se dit, mais tu ne peux pas franchir la ligne, tu restes du côté du pouvoir. Tout ce que tu es capable de faire, c'est rendre compte des formes de savoir par des rapports de pouvoir. Et puis voilà. Il découvre les points de résistance, mais il n'a pas encore de statut pour ces points de résistance. Il ne peut pas encore franchir la ligne. Il voit au-delà de la ligne. Il voit au-delà de la ligne qu'il y a des points de résistance. Mais qu'en fait? Alors, on peut toujours discuter. Et il discute. Supposons qu'il discute. Il dit, d'accord, voilà, je pourrais... Il aimait, lui, cette méthode. Il y a plusieurs de ses livres qui se terminent par une espèce de dialogue avec soi-même. Essayons de reconstituer, si l'on peut, une espèce de dialogue de Foucault avec soi. Au niveau de ce problème, franchir la ligne. Alors, je vois une première intervention possible. Il pourrait se dire à lui-même, ben oui, mais c'est pas ma faute. C'est le signe du monde moderne. À savoir, ce qui est devenu destin, c'est comme disait l'autre, la politique. La politique est devenue destin, ou, si vous préférez, notre destin, c'est toujours notre rapport avec le pouvoir. Et si humbles que nous soyons, vient toujours l'heure où le pouvoir, si l'on peut dire, nous interpelle. Et Foucault peut se dire, c'est quand même pas ma faute, c'est ainsi. Donc, vous voyez, il accepterait, il dirait, ben oui, je franchis pas la ligne parce qu'elle est infranchissable. Elle est infranchissable. Je reste du côté du pouvoir parce qu'on est tous du côté du pouvoir, c'est-à-dire on est en dessous. On en reçoit les coups, et puis voilà. Et en effet, du plus puissant au plus humble, je dis, le pouvoir, là, tantôt, nous appelle et nous dit, viens, viens rendre des comptes. Et qu'est-ce qu'on peut invoquer? On peut invoquer à la rigueur un pouvoir contre d'autres pouvoirs. Oui, viens rendre des comptes, montre-toi à la lumière, ou bien viens t'expliquer. Et les deux formes du savoir, encore une fois, le visible et l'énoncé, sont bien ces deux branches qui correspondent aux injonctions du pouvoir. Montre-toi, explique-toi. Montre-toi qu'on voit un peu à la lumière, la photo d'identité, et puis explique-toi, raconte un peu qu'est-ce que tu as fait là. L'enquête. Et Foucault en 77 écrit donc ce thème qui le poursuivait de tout temps, l'homme infâme. Qu'est-ce qu'un homme infâme? Ben, l'homme infâme, c'est l'homme quelconque, l'homme ordinaire. En tant qu'il bute contre le pouvoir, en tant qu'il est interpellé par le pouvoir, en tant qu'il doit rendre des comptes au pouvoir. T'as battu ta femme, c'est la lettre, c'est l'homme sous la lettre de cachet, ou l'homme sous le placement volontaire. T'as battu ta femme, elle est morte. Qu'est-ce qui se passe? Et la femme qui est battue, elle-même, elle fait un placet. Et elle dit, défendez-moi, elle invoque un pouvoir. Bon, donc, la première réponse, ce serait, mais le moment décisif de notre vie, c'est toujours le moment où nous nous heurtons au pouvoir. Bien. On peut dire ça. Mais c'est une réponse désolée. C'est que d'aucune manière on ne peut franchir la ligne. Deuxième intervention possible. Ah ben oui, il y a les points de résistance. Cette découverte de la volonté de savoir. Qui entraîne la mutation des diagrammes, etc., qui donne un sens à la lutte politique. D'accord. Il y a ça. C'est déjà mieux. Est-ce qu'on peut rejoindre les points de résistance? Oui, on peut. Est-ce qu'on peut lutter? Oui, on peut lutter, dès lors. On peut franchir la ligne. Oui, réponse. À condition de ne pas être amené de l'autre côté de la ligne, et vite. Car si les points de résistance entrent en rapport les uns avec les autres, c'est-à-dire se relivrent à des opérations de centralisation, de renforcement, s'ils dépassent leur dissémination, et ils sont bien forcés de dépasser leur dissémination, sinon, comment est-ce qu'ils l'emporteraient ? S'ils refont du centralisme, hein, le fameux centralisme démocratique, s'ils refont du centralisme démocratique, en d'autres termes, s'ils se restratifient, s'ils engendrent une nouvelle formation, ils engendrent une nouvelle formation, d'accord ? Eh bien oui. Mais la nouvelle formation. L'expérience nous apprend qu'elle risque d'être pire que la précédente, ou de engendrer des foyers de pouvoir qui rendront la résistance encore plus aléatoire. Bon, c'est les grands échecs des révolutions. Donc, les points de résistance. Troisième intervention. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a? Si je ne peux même pas compter sur les points de résistance, parce que les points de résistance, ils sont bons tant qu'ils sont disséminés, tant que ils sont spécifiques par rapport aux relations de pouvoir, mais dès qu'ils se co-agrègent, dès qu'ils s'agrègent les uns aux autres, dès qu'ils reforment des lignes, ils reforment des strates aussi dures que les strates qu'ils ont défaites. Alors, qu'est-ce que ce serait la ligne? Franchir la ligne. Est-ce que c'est simplement invoquer une vie? Retourner la vie contre le pouvoir. Qu'est-ce que c'est ce vitalisme? Franchir la ligne, c'est quoi? Aller au-delà du pouvoir. Ne plus être du côté du pouvoir. Est-ce que c'est se réclamer de la vie? Comme un poète ou comme un grand romancier peut se réclamer de la vie, Lawrence, Henry Miller, Oui, d'une certaine manière, ils n'ont pas cessé de résister. Leur œuvre est une résistance. Bon, qu'est-ce que c'est que cette ligne ? Appelons-la, parce que ça nous raccommode. Aller au-delà du pouvoir, c'est franchir une ligne très bizarre, la ligne du dehors. Le dehors du pouvoir. La ligne du dehors. Franchir la ligne du dehors. Bon. C'est ça sans doute que l'écriture, c'est ça que les grands écrivains et que les grands philosophes s'efforcent de faire. Atteindre à la ligne du dehors ou la franchir, c'est pareil, sur la ligne du dehors. Mais qu'est-ce que ça peut bien être, la ligne du dehors ? On a trouvé cette expression revenant et chez Blanchot et chez Foucault, le dehors. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Et qu'est-ce que c'est que la ligne du dehors ? Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté ? Le vide, la mort ? Le vide, la mort. Après tout, le vitalisme de Foucault. Je vous l'ai dit, il est en rapport avec Bichat, et comme disait Foucault à propos de Bichat, c'est un vitalisme sur fond de mortalisme. La mort à la Bichat, c'est-à-dire la mort violente, la mort multiple, la mort plurielle, tout ce qui faisait l'objet du livre de Bichat sur la mort. Alors, franchir la ligne, est-ce que c'est finalement, c'est la mort, quoi ? Ou c'est le vide ? C'est tomber dans le vide, c'est mourir, bon. Après tout, ces thèmes sont assez proches et de Foucault et de Blanchot. À moins que quoi ? Eh bien, supposer que le dehors, la ligne du dehors, c'est au-delà du pouvoir, soit pris dans un mouvement qui l'arrache au vide. Ou qui la détourne de la mort. Tout ça, c'est des mots pour le moment. La ligne du dehors qui risque de tomber dans le vide ou dans la mort, supposez qu'elle épouse un mouvement qui l'arrache au vide et la détourne de la mort. Vous me direz, facile à supposer. Ça ne fait rien. Hein. Supposons. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? À ce moment-là, on aurait un troisième axe. À ce moment-là. Au-delà de l'axe du savoir et de l'axe du pouvoir, il y aurait un troisième axe. En effet, si la ligne du dehors se ramène au vide et à la mort, on ne peut pas dire que ce soit un troisième axe. Si c'est autre chose que le vide et la mort, alors là, oui, il y aurait un troisième axe. Pourquoi on ne l'aurait pas vu depuis le début ? Il était trop emmêlé dans les autres. Il était trop emmêlé dans les deux autres. Il faut le découvrir. Il faut le découvrir comme une espèce de truc souterrain qui travaillait déjà sous les deux autres. Il était présent dès le début, mais on ne savait pas le voir. Un axe qui ne serait ni savoir, ni pouvoir. Et cet axe, ce serait lui qui permettrait de franchir la ligne. Il serait lui-même le franchissement de la ligne. Voilà où nous en sommes, mais je crois très vivement que, d'une part, ce troisième axe ne sera découvert par Foucault que dans ses livres finaux, c'est-à-dire dans l'usage des plaisirs, et que ce troisième axe sera découvert dans des conditions exceptionnelles, tout à fait bizarres. Car, alors que dans tout ce que je viens de dire, ce troisième axe est un axe de passion violente, une espèce d'enjeu vie et mort, Foucault mettra toute sa force à le découvrir dans des conditions neutre. Et par une espèce de plaisanterie ultime, il le découvrira chez les Grecs. Alors qu'il s'est toujours, j'exagère un peu, alors qu'il s'est toujours foutu des Grecs. Pourquoi est-ce qu'il a besoin de mettre le maximum de froideur dans la découverte de cette troisième dimension et de faire comme si il s'agissait d'un très vieux truc qui ne nous concerne pas vitalement, alors que ça le concernait vitalement. Voilà la première question. Et la deuxième question, cette troisième dimension, ce troisième axe qu'il découvre à ce moment-là, il le savait. D'une certaine manière, il n'avait jamais cessé d'en parler et presque de ne parler que de cela. Seulement, dans des conditions qui étaient recouvertes par le problème du savoir et par le problème du pouvoir. Mais ce que je voudrais montrer, c'est que dans un certain nombre de livres, du début jusqu'à la fin, notamment dans Raymond Roussel, c'est de ça qu'il était question. Franchir la ligne. Comment franchir la ligne? Comment aller au-delà et du savoir et du pouvoir? Quel axe à la lettre faut-il enfourcher? Quelle dimension faut-il prendre? Et que c'était vraiment là son problème passionnel le plus profond. Mais qui en tant que problème passionnel ne pouvait exister que souterrain au savoir et au pouvoir. Si bien qu'il ne pourra le dégager que dans des conditions de froideur feinte, de froideur extrême, et sous la forme d'un retour aux Grecs. Qu'est-ce qui se passait chez les Grecs? Les Grecs, peut-être, avaient inventé ce troisième axe.